doit être plus sociale et environnementale. Il faut sortir de la logique purement financière. Voilà ce que défend l'eurodéputé sortant Pierre Larrouturou. Le fondateur du parti de gauche Nouvelle Donne est de nouveau candidat et il est notre invité à 6h20. Et dans ces européennes, quid des communistes? On les entend peu. Pourquoi? Quelles idées défendent-ils? Ce sera notre histoire politique à 6h40. Juste après, dans l'histoire du monde, nous verrons comment la Lettonie et plus globalement les pays baltes renforcent leur défense face à la Russie. Dans le grand angle, une expérience scientifique, des cobayes qui restent alités pendant 2 mois et qui pédalent dans une centrifugeuse pour faire avancer la recherche spatiale. Où vont les déchets quand ils sont dans le camion poubelle? C'est la question des petits bateaux et la réponse à 6h10. Enfin, dans la chronique jeux vidéo, hommage à la légende Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, mort il y a quelques semaines. Et d'abord le journal, Arthur Fradin, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Pas de smartphone avant 11 ans et une interdiction d'aller sur les réseaux sociaux avant 15 ans.
Voilà quelques-unes des préconisations du rapport d'experts sur l'usage des écrans chez les enfants commandé par Emmanuel Macron. Une dizaine de spécialistes ont planché sur le sujet depuis janvier et ils doivent remettre leurs conclusions au président de la République aujourd'hui. Alors limiter l'accès au téléphone et aux tablettes pour les ados, qu'est-ce que ça changerait par exemple dans les établissements scolaires, Sonia?
La règle qui prévaut dans les écoles et les collèges, c'est l'interdiction, que ce soit du téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme les montres connectées et les tablettes, l'utilisation est interdite dans l'enceinte des établissements, mais aussi lors des activités d'enseignement qui se déroulent à l'extérieur, les séances de sport ou les sorties scolaires. La loi date de 2018, mais comporte des exceptions. Pour les élèves qui ont un trouble de santé ou un handicap qui nécessite des dispositifs médicaux connectés, et pour les usages pédagogiques, les outils numériques peuvent être autorisés dans la classe quand ils sont encadrés par un personnel de l'éducation et à des fins éducatives. Le règlement intérieur de l'établissement doit mentionner les circonstances et les lieux de ces autorisations exceptionnelles, par exemple à l'internat du collège. À l'inverse, les lycées peuvent préciser dans leur règlement intérieur les espaces où les appareils numériques sont interdits et en restreindre l'usage. Mais chaque élève est libre, bien sûr, de posséder un téléphone portable, éteint et rangé dans le sac pour les plus jeunes. Une série de sanctions est prévue en cas de non-respect de la loi et du règlement intérieur.
Une précision de Sonia Princet, spécialiste éducation de France Inter. À Châteauroux, l'adolescent de 15 ans soupçonné du meurtre à coups de couteau de Matisse, 15 ans lui aussi, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention selon le parquet de Bourges. Sa mère présentée à ses côtés devant le juge a été mise en examen pour violence volontaire. Elle a asséné des gifles à la victime selon le parquet.
Gérard Depardieu sera jugé en octobre pour agression sexuelle.
Entendu hier dans un commissariat parisien, l'acteur s'est vu remettre une convocation. À l'automne, il fera face aux accusations de 2 plaignantes. Elles dénoncent son comportement lors du même tournage, celui du film Les Volets Verts en 2021, Ariane Grissel.
L'une de ces 2 femmes était assistante réalisatrice sur le tournage, l'autre décoratrice. Toutes 2 ont porté plainte au début de cette année. L'assistante réalisatrice décrit à nos confrères de Mediapart des attouchements à la poitrine et sur les fesses de la part de l'acteur à 3 reprises. Gérard Depardieu finit par s'excuser, mais lui fait vivre, dit-elle, un calvaire sur le tournage. Tandis que sa collègue décoratrice détaille la force phénoménale de l'acteur qui la maintient. Il me pétrit le ventre, la taille en remontant jusqu'à mes seins. Geste accompagné, selon son récit, de mots extrêmement crus. Gérard Depardieu lui conteste les faits. Pendant sa garde à vue, il a été confronté à cette dernière plaignante, mais il n'était pas convoqué que pour ces 2 plaintes. Une 3e femme l'accuse de gestes similaires sur un tournage, cette fois en 2014, celui du film Le magicien et les siamois. Elle aussi a été confrontée à l'acteur ce lundi, mais les faits sont prescrits et ne pourront dans tous les cas pas être jugés. Elle peut en revanche venir témoigner à l'audience du mois d'octobre.
Gérard Depardieu déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle après une plainte de la comédienne Charlotte Arnould. Arnaud Lagardère, PDG du groupe Lagardère, mis en examen pour abus de biens sociaux. Le fils de Jean-Luc Lagardère est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles pendant plusieurs années. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de fournir une caution de 200 000 euros.
Les inégalités salariales entre les grands patrons et leurs salariés se creusent en France.
C'est ce que dit le rapport annuel de l'ONG Oxfam. Il nous apprend qu'en 2022, les PDG du CAC 40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leurs employés, chiffre en nette progression par rapport à 2019 où l'écart était de 111. Léa Guérin est chargée de plaidoyer à Oxfam France. Elle dénonce le décalage entre le niveau de ses rémunérations et les difficultés des Français face à l'inflation.
C'est l'indécence de certaines rémunérations qui dépassent l'entendement. On a des rémunérations à hauteur de voire 33 millions d'euros et des salaires moyens extrêmement bas. C'est un sentiment général lié à l'inflation, parce que on l'a bien vu, on a beau avoir des augmentations de salaire, on n'arrive toujours pas à finir les fins de mois. Beaucoup de Français n'arrivent pas à finir les fins de mois. On a même vu que la pauvreté avait augmenté en France. On atteint 14,5% de la population. C'est tout simplement pas normal d'avoir des rémunérations aussi élevées quand on a en France des Françaises et des Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, tout simplement.
Et le champion des écarts de rémunération, c'est le PDG de Téléperformance, leader mondial des centres d'appel. Daniel Julien gagne 1453 fois plus que le salaire moyen de son entreprise.
France Inter 5h06, une lueur d'espoir de paix dans la bande de Gaza.
Une réunion a eu lieu hier au Caire en Égypte. Israël a proposé à des représentants du Hamas une trêve de 40 jours. Elle permettrait la libération d'otages israéliens en échange de la libération de prisonniers palestiniens. La délégation du Hamas a promis de revenir avec une réponse à cette proposition. Hier soir, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé suspendre les financements de sa région à Sciences Po Paris, occupée vendredi par des militants pro-palestiniens, tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies. Elle fustige, je cite, « les agissements d'une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite ». Ce matin, un rassemblement aura lieu près du tribunal de Paris et des locaux de la police judiciaire parisienne en soutien à Rima Hassan et Mathilde Panot, entendues par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. En cause des propos tenus par les deux insoumises sur la guerre au Proche-Orient, la chef de file du camp LFI à l'Assemblée dénonce une censure.
Une date importante pour les automobilistes habitués de l'autoroute A13.
La circulation sera rouverte à partir du samedi 11 mai, uniquement toutefois dans le sens province-Paris et seulement pour les véhicules légers. À cause d'une fissure sur la chaussée, la route est fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucreux sont depuis une dizaine de jours. Lui, malheureusement, ne prendra pas la route des JO. Le sprinteur français Mouamadou Fall, rattrapé par la patrouille, il vient d'être suspendu 9 mois après un contrôle positif à un stimulant interdit. Conséquence, pas de Jeux Olympiques cet été pour le quadruple champion de France du 100 mètres. Et puis en football, première demi-finale de Ligue des Champions ce soir avec le Bayern Munich qui reçoit le Real Madrid à 21h. Demain soir, autour du Paris Saint-Germain d'entrée en piste face au Borussia Dortmund. Objectif décrocher donc le ticket pour le stade de Wembley à Londres où se tiendra cette finale de la Ligue des Champions.
C'était le journal d'Arthur Fradin, 5h08.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Le temps reste encore bien agité, Elodie Calac.
Pas moins de 2 perturbations, toujours la même, de l'Occitanie vers le centre-Val de Loire, la Bourgogne et la frontière belge, avec des pluies copieuses du Languedoc aux Cévennes ce matin. Des pluies parfois accompagnées d'orages cet après-midi du Languedoc et de la vallée du Rhône vers la Bourgogne, avec de la grêle possible. Quelques orages pourront déborder sur l'est de la région parisienne et le nord de la Seine. Une autre perturbation concerne la Bretagne, avec des pluies parfois soutenues et un vent de sud. De la Nouvelle-Aquitaine vers la Touraine et la Normandie, c'est bien ensoleillé. Du nord-est à la Provence, pas mal de nuages ce matin, mais du soleil sur l'Alsace. De la pluie cet après-midi midi sur les Alpes et une tendance orageuse sur le nord-est. Les températures sont en hausse ce matin, 5 à 14 degrés attendus. Cet après-midi, souvent 17 à 22 degrés, seulement 13 degrés sur la pointe bretonne sous la pluie, mais 26 degrés en plaine d'Alsace sous le soleil.
France Inter, le 5-7.
Le gouvernement a récemment signé un pacte vélique pour décarboner l'industrie maritime, pour que la France soit à l'avant-garde du transport de marchandises avec des bateaux propulsés par le vent. On y revient dans 3 minutes dans les chroniques littorales. Avec Cyril Lacarrière, on s'intéresse à l'asexualité, un concept théorisé il y a déjà plus de 100 ans. Quant à Tanguy Pastureau, il nous parlera de TGV, de consanguinité. Vous verrez comment il passe de l'un à l'autre. Il est 5h09 dans le 5-7. On vous propose Le Meilleur. C'est le titre d'une chanson de notre playlist avec le saxophone de Laurent Barden, la voix de Jeanne Haddad et le quartet Tigre d'eau douce.
Je... Cœur.
de Laurent Barden et Tigre de Douze qui ont invité Jeanne Adède à venir chanter sur ce titre. Il est 5h13, on retrouve José Manuel Lamarque et ses chroniques littorales. Bonjour José Manuel.
Bonjour Mathilde Munoz.
Une nouvelle étape vient d'être franchie pour développer les cargos à voile en France.
Oui, une évolution qui prospère. Pour preuve, la signature d'un pacte entre l'État et les acteurs du secteur vélique, c'était le 28 mars dernier au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Donc c'est une belle avancée que l'on doit entre autres à Winship. Winship, c'est cette association qui fédère les acteurs de la propulsion vélique. Et Lise de Trimont de Winship est avec nous ce matin et on peut dire, Lise, qu'il y a vraiment du nouveau pour le Vélic et pour Winship.
Bien oui, il y a du nouveau. L'association Winship, on l'a créée en 2019, donc ça fait 4 ans maintenant. Et on était 5 cofondateurs à l'origine. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine de membres, on va dire d'équipiers.
Qui sont-ils ces membres ?
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en France, on a un écosystème un peu particulier. On a ce qu'on appelle toute une chaîne de valeur autour de cette propulsion des navires par le vent. Les membres de l'association, ce sont ceux qui sont, on va dire, un peu en amont de cette chaîne de valeur, c'est-à-dire les armateurs, les équipementiers qui vont fabriquer les systèmes véliques, les bureaux d'ingénierie, les architectes navals, les chantiers, donc ceux qui vont, on va dire, concevoir, avoir une vision globale de ce que c'est qu'un navire marchand à la voile. Et puis à côté de ça, on a des acteurs qui vont être essentiels au démarrage ou à l'amorçage de ce secteur vélique, que sont des financeurs, des assureurs,
des
services portuaires, bien sûr, des investisseurs, et qui sont des acteurs qui sont venus petit à petit échanger, travailler avec Winship en disant, nous, on pense qu'on a quelque chose aussi à faire,
parce
on sait qu'on apporte, voilà, on apporte quelque chose, et on est essentiel au démarrage de ces projets, et on voudrait être encore plus actif. Et donc, c'est ce qu'on a intégré sous le vocable équipage, c'est un programme de partenariat, et on travaille avec ces acteurs-là sous forme de commission de travail, avec des sujets très spécifiques, présenter un modèle économique, projet d'armement, travailler sur la temporalité, la planification industrielle associée à ces navires, et ça permet petit à petit d'avoir une montée en compétence de tout cet écosystème et des acteurs que l'on touche aussi avec ces projets-là, très largement, qu'il s'agisse de l'État, de l'administration, des collectivités.
Avec toute cette fédération, je dirais, de bonne volonté, l'actualité pour vous ?
Alors, on a notamment un véritable enjeu aujourd'hui sur un changement d'échelle de ce secteur français de la propulsion des navires par le vent.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, changement d'échelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui les premiers navires deviennent très concrets.
Ce sont des cargos, généralement.
Voilà, cargos voiliers. Et on en a qui sont mis à l'eau, on en a qui sont en construction. Et ça y est, ça commence. Ça devient très concret. On a baptisé le navire Canopée il n'y a pas très longtemps.
Canopée qui transporte Ariane.
Qui transporte, voilà, les morceaux du lanceur de la fusée Ariane, des navires à passagers comme Selcop et Lien, qui sont des nouveaux projets aussi. Ça commence à devenir très concret. Et il faut aujourd'hui répondre à cette urgence climatique. Et pour ça, il faut mettre en place toute une chaîne de production, finalement, de ces systèmes véliques qui vont pouvoir équiper. On parle quand même de 100 000 navires aujourd'hui qui parcourent les océans au quotidien.
Bien évidemment, tous ne sont pas véliques.
Non, aujourd'hui, voilà. On parle de la flotte maritime mondiale.
Mondiale.
Voilà, on sait aujourd'hui que ces 100 000 navires doivent devenir des navires qui ne vont émettre aucune émission d'ici 2050. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il y a peu de solutions disponibles suffisamment matures pour réussir ce défi. Et ce qu'on a en France de très spécifique, et vous en connaissez un certain nombre, c'est qu'on a ce qu'on a appelé des néo-armateurs. Des armateurs qui lancent aujourd'hui des nouvelles compagnies maritimes en s'appuyant très fortement sur la propulsion par le vent. Et puis on a aussi en France des armateurs plus conventionnels qui testent, qui essayent des systèmes véliques et même qui passent des commandes en utilisant des systèmes véliques sur leurs navires. Donc on a un terrain plutôt favorable, l'État aussi suit, écoute, et ça c'est vraiment un changement de point de vue qui est extrêmement important. Aujourd'hui, les entreprises investissent, elles envisagent plus d'1 milliard d'euros d'investissement dans les 5 ans qui viennent.
Pour aller plus loin.
Exactement. Il y a ce critère environnemental, mais à moyen terme, il y a évidemment aussi une économie générée par la réduction du besoin en carburant. Et ces carburants dont on va avoir besoin demain, ils vont coûter très cher, ils vont être peu disponibles. Et c'est ça que permet le Vélic.
Merci à vous, Lise de Trimont. Un site internet wind-ship.fr. À demain, Mathilde Munoz.
Bonne journée, José Manuel Lamarque.
Le 5-7 sur France Inter.
Il est 5h17, l'heure de regarder les unes de la presse et cette invitation au voyage dans Libération. Voyage en train en Europe, le journal a fait chauffer son pass Interrail pour enquêter sur un chemin de fer en plein essor. L'un de ses reporters a parcouru 6000 km et 6 pays en une dizaine de jours. Il a roulé 62 heures sans s'ennuyer une seconde tant il y avait à voir et à faire. Et il a pu vérifier que le train était bien le moyen de transport de l'avenir qui ne dérègle pas le climat. climat qui abat les frontières et nourrit les rêveries. D'Europe, il est aussi question dans Les Échos qui nous raconte les 20 ans du miracle économique en Europe de l'Est. Les 10 pays qui ont rejoint l'Union en 2004 ont connu une croissance hors du commun. En Pologne, par exemple, le PIB par habitant a doublé en 20 ans, mais leur succès a accéléré la désindustrialisation de la France. L'Europe aussi en une de La Croix avec les élections et la campagne dans un fauteuil, c'est le titre de Jordan Bardella. Le candidat en chef du RN écrase la concurrence dans les intentions de vote. Il progresse dans des catégories d'électeurs qui lui résistaient jusqu'ici, comme les cadres et les retraités. Il présentera demain avec Marine Le Pen les 35 premiers noms de sa liste. Demain, c'est le 1er mai et l'humanité anticipe cette fête des travailleurs en faisant son grand titre sur les dossiers chauds de cette journée de mobilisation, à savoir la défense des droits des travailleurs et de l'assurance chômage. Une journée placée aussi sous le signe de la bataille contre l'extrême droite. Le Figaro revient sur le drame de Châteauroux, la mort d'un adolescent poignardé par un autre jeune de 15 ans. Enfin, le Parisien aujourd'hui en France fait le point sur la fermeture de l'A13. Encore au moins 2 semaines de galère en perspective. Un peu plus d'une personne sur 10 en France se déclare asexuelle, c'est-à-dire qu'elle ne ressent pas ou peu de désir sexuel. C'était le sujet hier de l'émission Zoom Zoom Zen avec Cyril Lacarrière pour remonter aux origines du mot du jour. Depuis quand parle-t-on d'asexualité ? La sexualité, d'où ça sort ?
Voilà qui va battre en brèche l'idée qui veut que l'asexualité soit une notion toute neuve. C'est en 1897 que la sexologue allemande Emma Troos donne la première définition de cette notion, et voilà ce qu'elle en dit. L'asexualité et l'attirance pour le même sexe ne sont pas des exceptions ou des anomalies, c'est pourquoi l'État devrait protéger leur droit à la liberté sexuelle au lieu de les discriminer. Un sujet qu'elle aborde dans son livre « Une femme, études psychologico-biographiques d'une personne asexuelle ». Alors je vous dis que Emma Troos est la première à avoir donné une définition de la sexualité, mais d'autres en avaient déjà parlé avant. 1886, encore un Allemand et encore un sexologue, Richard von Krafft-Ebing. Mais Richard n'est pas sur la même longueur d'onde qu'Emma. Pour lui, l'asexualité doit être considérée comme un trouble mental. 10 ans plus tard, rebelote. Cette fois, c'est Magnus Hirschfeld qui parle d'asexualité, qui l'assimile à de l'anesthésie sexuelle. Et au fait, ce Magnus Hirschfeld, je vous le donne en mille, c'est un sexologue, et oui, il est allemand. À croire que l'asexualité est une passion allemande. Bref, heureusement que plus tard, Emma Troos est venue mettre son grain de sel dans cette histoire de mec. Alors, qu'est-ce que l'asexualité ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est asexuel ? Quel regard porte la société sur les asexuels ? Pourquoi certains en parlent comme d'une lubie ? À quel âge est-ce qu'on comprend qu'on est asexuel ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Une heure d'émission consacrée à l'asexualité à réécouter en podcast. Cyril Lacarrière sera de retour en direct cet après-midi aux côtés de Mathieu Noël. Ils zoom-zoomeront sur le ciné-tourisme quand on part en voyage sur les lieux de tournage de nos films et séries préférés. Rendez-vous à 16h. Il est 5h20, on écoutait un tigre d'eau douce il y a 10 minutes. Voici maintenant un super homard. Thierry Dupin nous a concocté une playlist animalière ce matin pour le 5-7. Le super homard avignonnais associé à un chanteur australien, Maxwell Farrington. Voici Hexagone. By way of Mexico, they land in Tahiti. No plans but a hexagon. Did they feed me? Bygones in a similar world of heathens. Unheard and walked all upon, we see them. Big chance for daylight today. You know when you're dreaming. Shake hands and pray like you say the words of someone who's screaming. Out there you're nothing but tack and beauty. Hold fast and follow your code of duty. The sun to Croatia. Hexagone, la collaboration entre Maxwell Farrington et le Super Omar. Ils ont sorti cette année tout un album ensemble. Il s'appelle Please Wait.
France Inter.
Vous le savez, en ce moment, Tanguy Pastureau voyage beaucoup pour sa tournée. Il nous en parle ce matin à 5h24 sur France Inter.
Ce week-end, j'étais en tournée, d'abord à Tours, ville charmante, surtout la vieille ville. Comme dans toutes les villes, moi, ce que j'aime, c'est ce qui est vieux et un peu sale, je veux dire, les vieilles villes. Quoi. C'est pour ça que je traîne pas mal du côté des EHPAD, d'ailleurs, surtout quand la veille à la cantine, il y a du chou. Alors, sur place, belle ambiance. Comme d'hab, après le spectacle, on me demande, il est comment Nagui en vrai? Pour rire, je réponds, c'est une crevure. Et en général, les gens très premier degré me disent, je le savais.
C'est vrai.
Ensuite, je suis allé jouer à Guidel, près de Lorient. Guidel, c'est là que chaque année se tient l'université de rentrée du Modem. Donc, ils ont l'habitude de voir personne. Il y a juste Bayrou en marinière Guy Cotten qui, sur la plage, fait un palais de l'Elysée en sable, qu'il écrase ensuite en pleurs. Enfin, à Guidel, invité par le Modem, il y a déjà eu Édouard Philippe, Elisabeth Borne, Jean Castex. Donc là, ils ont dû se dire, on va continuer notre parcours découverte des gens chiants en invitant Pastureau. Et enfin, hier, je suis allé jouer à Quimper en après-midi. Voilà ce que les gens de théâtre appellent en matinée, puisque pour ces feignasses d'artistes, voilà, 16h, c'est le début de la journée. Et minuit pour eux, c'est l'après-midi. Enfin, être artiste, c'est se taper un jet lag permanent sans voyager. Donc, retour à Paris hier soir tard, et je suis déjà là avec vous. Alors oui, je suis un surhomme. Marvel m'a contacté pour incarner à l'écran le personnage de Superphare Breton. Voilà, l'idée, ce serait en plein vol de lancer des pruneaux sur les méchants. Enfin, bon, et donc, j'ai des heures de TGV à meubler. Le TGV, vous savez, c'est ce train qui t'emmène bien trop rapidement d'une ville pas top à une autre ville pas top. Je passe tellement ma vie dans le TGV qu'hier, un contrôleur m'a demandé ma main. Il m'a dit, on se voit tout le temps, on a une petite relation tous les deux. Mais bon, j'ai refusé. Donc, il a remonté son pantalon. Les autres voyageurs ont fait, zut, parce que pour une fois qu'il se passait quelque chose dans le TGV. Et donc, vexé, il a vérifié ma carte de réduction. J'ai une carte avantage senior. En fait, j'ai voté les selles de Daniel et j'ai collé ma photo. C'est-à-dire, quand les mecs voient le nom et disent, je vous écoute tous les matins à 6h55, vous avez l'air en forme pour quelqu'un qui se lève si tôt chaque jour. Je réponds, je fais de la chirurgie. Enfin, c'est Olivier Véran qui s'entraîne sur moi dans le cadre de son BTS d'auteur. Bon. Et donc dans le TGV, vous le savez peut-être si vous le prenez le TGV, il n'y a rien à faire. On peut travailler, mais moi j'arrête parce que ma réussite insolente me coupe de mes collègues du milieu de l'humour. On peut regarder le paysage, mais il n'y a plus que des éoliennes partout. La France est devenue un groupe électrogène avec des champs humides autour. On peut lire des livres, mais personne ne fait plus ça, à part Nagui, quand il prépare les émissions, qui a d'ailleurs été approché par le zoo de Beauval pour bouquiner dans la partie espèces menacées à cheval sur un rhinocéros blanc. Et moi je lis aussi, mais la presse, parce que je suis moins intelligent que vous, Nagui. Une fois je me suis trompé des je suis à la France Culture, ils m'ont jeté des pierres. Et hier, je suis tombé sur un article de 20 minutes, le journal qui porte le nom de notre ambition intime le samedi soir. Article intitulé « L'incroyable histoire des Whitaker, la famille la plus consanguine des États-Unis ». Je vous raconte un photographe américain qui s'appelle Mark Leita, et dommage pas Leica, parce que c'est une marque d'appareil photo, enfin c'est comme si c'était appelé Kulak, quoi. Ce type a découvert au bout d'une route qui menait à un sentier, qui menait à un chemin, qui menait à rien, une famille, les Whitaker, au fin fond de la Virginie, parce qu'il y a des États américains qui portent des noms de femmes, Virginie, Caroline, il n'y a pas de Sylvie. Mais c'est pas passé loin. Les Whitaker vivent dans des bicoques. Vous voyez la propriété de Brad Pitt dans le Var?
Oui.
Ok, donc vraiment rien à voir. Ils sont tous consanguins depuis le 19e siècle. C'est-à-dire deux sœurs au départ ont épousé deux frères, puis un couple composé de cousins germains. Ils n'ont pas compris qu'à pratiquer en famille le maximum, c'était le repas du dimanche. Et qu'à cette occasion, d'ailleurs, il fallait garder son slip. C'est donc parti en cultitès, comme disent ceux qui refusent de dire yoku. Et aujourd'hui, ils sont tous, disons, atypiques. C'est-à-dire que Mark Leita raconte que la première fois qu'il les a vus, il y en avait un qui tapait dans des poubelles en hurlant, chose qu'on fait à Paris en criant « alors Hidalgo !» Tu fais quoi ? Lorraine, une des consanguines, ne parle pas, elle n'a jamais parlé, ni son fils Timmy, qui est né d'un viol, puisque la vie n'est pas rose chez les Whitaker. Et il y en a même un qui aboie. Voilà, donc j'imagine que pour le mercato de la rentrée, il est en négociation avec la chaîne Animaux. Leita a donc fait un documentaire sur ces gens qui a cartonné sur YouTube, des millions de vues. Il a ouvert une cagnotte pour eux sur Internet. L'argent a été dilapidé par on ne sait pas qui, parce que les Whitaker vivent toujours dans des cabanes, moins bien que celles dans les arbres à 400€ la nuit sur Airbnb que louent les citadins rêvant d'être proches de la nature, mais juste pour 12 heures. Aux États-Unis, les Whitaker sont devenus des stars, surtout celui qui aboie. On est aux USA, donc même si on lui donne des sucres, il y en aura toujours moins dans le sang que les autres Américains, quoi. Tout ça est affligeant. Vous voyez, c'est du freak show, des spectacles de monstres. C'est-à-dire que le cirque s'est juste déplacé. Avant, c'était sous chapiteau. Maintenant, c'est partout sur le net et ça fait des millions de clics. Je me suis dit ça dans le TGV, alors j'ai éteint mon écran et j'ai pris un bouquin en me disant, elle est pas mal finalement, la vie de Nagui.
Tanguy Pastureau, tous les jours à 12h10 dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour, qui recevront dès 11h le comédien Alex Lutz. Il joue dans la comédie dramatique Le tableau volé en salle de main.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
La chanteuse Fabiana Palladino fait partie des nouveautés de la playlist France Inter. Je peux déjà vous dire qu'elle est anglaise et qu'elle joue du piano. Pour le reste de la bio, je passe le relais à notre spécialiste musique, Charline Roux, avec nous dans 5 minutes. Dans la prochaine demi-heure, nous aurons aussi la visite d'Olivier Bénis, parce qu'un manga du génial Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, vient d'être adapté en jeu vidéo. France Inter, 5h30. Un nouveau point sur l'actu avec Arthur Fradin. Et après 7 mois de guerre, cet espoir de paix à Gaza.
Une équipe de négociateurs israéliens se rend au Caire ce matin pour tenter de finaliser un accord de trêve et un échange otages-prisonniers. Le Hamas étudie la contre-proposition soumise par Israël qui remet en question le fragile équilibre des forces au sein de la coalition israélienne. Précision de Michel Paul à Jérusalem.
C'est une proposition remarquablement généreuse de la part d'Israël, affirme le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Cette fois, il est question d'un cessez-le-feu total dans le cadre d'un plan en deux étapes dont les détails transpirent et sont encore parfois contradictoires. Dans un premier temps, une trêve humanitaire temporaire avec la libération de 33 otages au lieu des 40 que les négociateurs israéliens exigeaient jusqu'à présent, cela en échange de plus d'un millier de Palestiniens détenus en Israël. Une seconde étape porterait sur la libération de tous les autres otages et l'arrêt des combats. Le Hamas, lui, exige la fin de la guerre, une option qu'Israël rejette. Les familles des otages font pression sur le gouvernement pour ne pas rater cette occasion de sauver leurs proches. De son côté, le premier ministre israélien Netanyahou est pris entre deux feux. L'extrême droite qui affirme que cet accord signerait la fin de l'actuel gouvernement. Et le centriste Benny Gantz qui, lui, estime que sans la libération des otages, la coalition perd toute légitimité.
Le conflit entre Israël et le Hamas et ses répercussions ailleurs dans le monde, aux États-Unis, des étudiants pro-palestiniens ont été sanctionnés par l'université de Columbia après avoir refusé de quitter un campement en signe de protestation. La direction indique avoir commencé à suspendre administrativement plusieurs élèves. Hier soir, la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé suspendre les financements de sa région à Sciences Po Paris, occupée vendredi par des militants pro-Palestine. Cela représente 1 million d'euros par an. Rima Hassan et Mathilde Panot, entendues aujourd'hui par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme en cause des propos tenus par les deux insoumises sur la guerre au Proche-Orient. La chef de file des insoumis à l'Assemblée évoque une censure et appelle à un rassemblement de soutien qui aura lieu ce matin près du tribunal de Paris et de la police judiciaire parisienne. La persistance des tensions à l'international, notamment à Gaza entre Israël et le Hamas, qui pousse par ailleurs Gérald Darmanin à renforcer la sécurité près des lieux de culte chrétiens pour les fêtes de l'Ascension et de Pentecôte. Il l'a demandé hier au préfet. Le ministre de l'Intérieur invoque le niveau élevé de menaces terroristes.
Arnaud Lagardère, mis en examen pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir.
L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer notamment son train de vie et ses dépenses personnelles. Et cela durant plusieurs années, Gaëlle Joly.
Pendant plusieurs années, Arnaud Lagardère s'est servi dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles. Selon une source judiciaire, le parquet national financier avait ouvert il y a 3 ans une enquête pour notamment diffusion d'informations fausses ou trompeuses, abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts, et ce d'après 2 signalements, celui de l'autorité des marchés financiers et du Haut Conseil du Commissariat aux comptes et une plainte d'un fonds d'investissement. L'héritier de 63 ans, longtemps à la tête du groupe fondé par son père où se côtoyaient Paris Match, le journal du dimanche ou encore Europe 1, n'en est désormais plus qu'actionnaire minoritaire. Hier, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer des fonctions de direction et l'obligation de fournir une caution de 200 000 euros.
Gérard Depardieu sera jugé en octobre prochain en correctionnel. L'acteur s'est vu remettre une convocation hier soir après 10 heures de garde à vue au commissariat parisien du 14e arrondissement. Entendu sur des accusations d'agression sexuelle portées par deux femmes, elle l'accuse d'attouchement subi sur un tournage en 2021, des faits que conteste l'acteur. Une vaste opération de police hier soir à Calais pour empêcher des migrants de monter dans des trains. Ils entendaient rejoindre des plages et tenter la traversée vers l'Angleterre, alors que mardi dernier, 5 migrants, dont une fillette, sont morts en tentant de traverser la Manche sur une embarcation surchargée.
Il est 5h34, une date à ne pas rater pour les fans de basket américain.
C'est officiel, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama disputeront deux rencontres de NBA à Paris. Ce sera en janvier prochain, le 23 et le 25. Les Spurs défieront les Indiana Pacers. Il s'agira des 4e et 5e matchs de saison régulière de NBA disputés dans la capitale. Et puis le retour d'un tableau emblématique aujourd'hui au Louvre, sans doute le plus connu du musée après la Joconde, La Liberté guidant le peuple, célèbre toile de Delacroix réalisée en 1830 qui était en restauration depuis le mois d'octobre. Elle va retrouver ses quartiers dans les allées du musée. Retour en salle en présence de la ministre de la Culture, Rachida Dati.
C'était le journal d'Arthur Fradin. Je vous donne les prévisions de Météo France avec toujours de la pluie sur les régions centrales, de l'Occitanie jusqu'à la frontière belge en passant par le centre et la Bourgogne. Les pluies sont particulièrement copieuses sur le Languedoc et les Cévennes et elles pourront s'accompagner d'orages cet après-midi, notamment dans la vallée du Rhône. Autre perturbation en Bretagne, mais de la Normandie en descendant vers l'Aquitaine, là le temps sera agréable avec du soleil aussi en Alsace, alors que dans le reste de la façade est, vous aurez des nuages et possiblement des averses. Côté température, il fait de 5 à 14 degrés ce matin, pour les maximales comptées de 17 à 22 degrés. À suivre dans le 5-7, Sandland dans la chronique jeux vidéo, inspiré d'un manga d'Akira Toriyama, un jeu pour petits et grands. Et puis dans les petits bateaux, on répond à Anna, 5 ans, qui se pose une question sur les camions poubelles.
France Inter. Le 5-7.
Dans le 5-7, il y a des infos et de la musique, et parfois les deux en même temps. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Mathilde.
Une nouvelle venue dans la playlist de France Inter, l'anglaise Fabiana Palladino. Je vous laisse nous dresser son CV.
Commençons par l'état civil. Elle est la digne fille de Pino Palladino, bassiste ayant officié pour des artistes aussi divers et variés que Simon & Garfunkel, D'Angelo, en passant par Nine Inch Nails. On le retrouve donc tout naturellement au service de son enfant sur Fabiana Palladino, puisque c'est aussi le nom de ce premier album. I Care, l'un des titres qui compose ce disque et qui compte la participation de Jay Paul, éminence de la pop outre-Manche, à la tête du label Paul Institute, l'homme providentiel tombé par hasard et sous le charme des démos de Fabiana Palladino, qu'il a donc signé. Continuons avec la formation, elle est à la fois musicienne, piano, batterie, entre autres, et productrice. Elle met ses talents multiples au service de Sampha, Jessie Ware ou encore Subtract et finit en 2017 par sortir un titre sous son propre nom, Mystery.
Elle poursuit en 2018 avec un titre que cette fois elle écrit et produit.
Catégorie expérience professionnelle, voici Shimmer, je cite, un hymne pour tous ceux qui se sentent sous-estimés. Et dans la foulée, au lieu de sortir un EP, Palladino décide d'attendre d'avoir suffisamment de chansons pour produire un album tout entier. Le dit album est sorti au début du mois. Un bon temps de maturation, me direz-vous. Un gage de qualité, vous répondrai-je, jamais avare d'une analyse tout à fait subjective. J'aurais pu ajouter à la ligne loisir et inspiration et remplir Chaka Khan l'album What You Gonna Do For Me, mais je préfère vous faire écouter un autre extrait de son album à elle, I Can't Dream Anymore. L'album de Fabiana Palladino est désormais dispo et elle vient de faire son entrée en playlist Inter avec ce titre « Stay with me through the night ».
All of my thoughts upon you stood at
Stay With Me Through The Night, extrait du premier album de Fabiana Palladino. Quant à vous, Charline Roux, Stay With Me au moins 5 minutes tous les matins, s'il vous plaît.
Of course, Mathilde, of course.
Il est 6h20, à l'heure du petit-déjeuner. Moi, je vous propose du fromage, de la feta, de la vraie qui vient de Grèce. C'est le premier épisode du Feuilleton de l'Europe. On rebaptise le Zoom une fois par semaine pendant la campagne des européennes. On va se rendre dans un pays pour illustrer l'un des enjeux du scrutin. Et nous commençons donc par la politique agricole commune, premier budget de l'Union européenne. L'agriculture grecque reçoit une enveloppe de 3 milliards d'euros. Mais malgré cet argent, les éleveurs grecs de brebis ont manifesté, eux aussi, cet hiver, car ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Reportage de Julie Pietri à Lazarina Karditsa avec tout d'abord Olga en salle de traite.
Qu'est-ce que vous faites là ?
On met les pompes sur les mamelles et quand il n'y a plus de lait, on masse un peu et la petite brebis là, elle s'en va. Retour au box. En tout, il y a 1000 bêtes. On fait près de 2 tonnes de lait par jour, c'est pas mal. Mais on angoisse. On essaie de faire au mieux, mais tu as beau produire beaucoup de lait, la hausse des coûts, finalement, te bouffe tes marges.
Donc ici, vraiment, en fait, tout est électrifié, mécanisé, et quand les coûts de l'énergie augmentent, les coûts de production augmentent énormément aussi. Et là, c'est un tracteur de plusieurs mètres de haut, immense, qui est en train de distribuer la nourriture aux brebis.
Yorgos va vous montrer.
Yorgos, c'est le patron de cette exploitation, une des 10 plus grandes de Grèce, dit-il fièrement. Il est aussi président d'une union d'agriculteurs de Thessalie.
Le carburant était à 1,60€ avant la guerre en Ukraine. Il est passé à 2,10€. Et de mémoire, pour l'électricité, on était à 400€ par mois avant la guerre et maintenant, c'est 1,300€.
Comment vous faites pour tenir ?
Nous sommes tous surendettés. En plus, avant, le lait de brebis avait un bon prix. 1,70€ par litre et maintenant 1,40, 1,45. Les prix de la feta ont flambé, mais nous, rien du tout.
Yorgos touche des aides de la politique agricole commune européenne. Autour de 35 000€ par an, pas assez, dit-il.
C'est très peu. Avec 15 personnes qui travaillent ici, ça fait déjà 14 000€ par mois de frais de personnel.
Épreuve supplémentaire pour ces agriculteurs de Thessalie, des inondations ont ravagé la région l'an dernier. 17 morts et des dizaines de milliers de bêtes emportées. La Commission européenne a d'ailleurs très vite promis de débloquer 2 milliards d'euros d'aide.
Tu vois la marque ? L'eau est arrivée jusque-là. On l'a mesurée, à 3,30 m exactement.
Grigoris a perdu toutes ses brebis dans les inondations.
680 bêtes, pas une n'a survécu, juste un chien. Les tracteurs étaient recouverts d'eau. Là, ça devait être la fromagerie. Tout était prêt, j'allais installer les lumières. J'aurais fait un fromage de qualité. Les brebis étaient biologiques. Les fourrages étaient bio. Tu peux pas savoir comme c'était beau avant. C'est ma belle qui va vous montrer les dégâts dans la bergerie. Mon bébé.
C'est sa femme, ouais. C'est ça ? Votre prénom, c'est quoi ?
Litsa.
On a juste commencé à nettoyer. Pendant des mois, je n'ai pas réussi à me lever pour venir ici. Mes deux fils sont venus d'Athènes pour aider. Et ensemble, ils ont sorti les bêtes mortes. Et le soir, ils venaient à la maison prendre un bain et ils pleuraient.
Pour 1,5 million de dégâts, Litsa et Grigoris ont touché 100 000€ grâce à leur assurance et 16 000€ du gouvernement pour les dommages sur leur maison.
Qu'est-ce que l'Union européenne a donné ? Ces 2 milliards, où sont-ils allés ?
Yorgos, le voisin, le président de l'Union des agriculteurs locaux, tente une explication.
Annoncer que 2 milliards sont débloqués, c'est le plus facile. Mais après, comment distribuer ? C'est de la bureaucratie.
À Athènes, les représentants de la Commission européenne expliquent que de l'argent a pourtant déjà été versé par dizaines de millions, mais que la répartition, c'est la responsabilité du gouvernement grec.
Le feuilleton de l'Europe en Grèce avec Julie Pietri. Prochain épisode. Dans une semaine, nous irons en Slovénie, capitale européenne du recyclage.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h moins le quart, le 5-7 à radiofrance.com. Voilà où nous écrire si vous souhaitez passer à l'antenne dans le cadre de notre rendez-vous déjà debout. C'est ce que vous avez fait, Sylvain Vezin. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous avoir en ligne. On devait vous avoir hier, hein, mais il y a eu un cafouillage. Cette fois, oui. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien ? Moi, j'ai l'impression que la liaison n'est pas très bonne. Vous m'entendez ?
Oui, moi, Oui, moi, je vous entends bien, oui.
Ouh là là, vous avez une petite voix métallique, vous semblez assez loin. Bon, on va voir si on arrive à faire les réglages dans les prochaines secondes. Faisons les présentations. Alors, vous vivez en Suisse, vous êtes responsable d'un accueil parascolaire à Corsier-sur-Veuvest, une commune située à l'est de Lausanne, au bord du lac Léman. C'est pour le travail que vous vous levez tôt ?
Oui, exactement, oui, parce que je commence certains matins à 7h, 7h moins quart même, donc le temps de faire le trajet, de prendre le train, je me lève tôt pour avoir un moment pour me préparer, tranquille.
Et pour écouter France Inter.
Et voilà, pour écouter le 5-7, oui, j'apprécie.
Alors l'accueil parascolaire, c'est quoi ? C'est une garderie ?
Voilà, c'est une genre de garderie, mais pour les écoliers. Pour les écoliers, donc à partir des classes de primaire jusqu'aux premières années de collège.
D'accord.
Que ce soit des enfants de 4 à 11, 12 ans.
Et vous vous en occupez quand exactement ? Avant les cours ?
Alors, oui, le matin, avant l'école, à midi, entre midi et 14h, et puis l'après-midi à partir de 15h30.
Et combien en avez-vous en ce moment ?
Alors, à midi, par exemple, on en accueille entre 60 et 70.
D'accord. Donc 70, mais avec des écarts d'âge assez importants, puisque vous nous avez dit, donc c'est de la maternelle au début du collège, donc ça fait quoi, 4 à 12 ans à peu près ?
Voilà.
Donc il faut faire des groupes, parce qu'on ne fait pas les mêmes activités à 4 ans et à 12 ans, j'imagine.
Non, effectivement, on fait deux groupes le midi, on fait deux services de repas, et puis les activités sont assez similaires en fait. Bon, les petits, ils jouent plus au Lego, aux voitures, des genres d'activités comme ça.
Ouais.
Puis les grands, c'est plutôt des activités sportives, genre football, hockey, d'autres activités. Et des jeux collectifs aussi.
Et vous avez tout ce qu'il faut pour les occuper ? Vous avez les infrastructures nécessaires ?
Oui. Alors, on a une super structure avec une salle de gym à disposition qui est dans le collège attenant. Et puis, on a aussi un terrain de sport à l'extérieur, un parc, un immense parc qui s'appelle le parc Chaplin, du reste, puisque Corsier-sur-Veuvest, c'est le village de Charlie Chaplin.
Ah.
C'est là qu'il s'était établi. Et donc, il y a un grand parc. Et il y a aussi le musée Chaplin qu'il faut visiter si jamais.
Bah oui, c'est une bonne idée, effectivement. Et justement, est-ce que vous faites du cinéma ou une sensibilisation au cinéma avec les enfants que vous gardez, justement, puisque Chaplin était dans le coin ?
Alors, c'est un projet cet été, oui, effectivement, de faire des animations autour de Chaplin, parce que cette année, on va ouvrir pendant les vacances d'été, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant.
Et je sais d'ailleurs que vous aimez développer des projets. Vous nous avez parlé des activités classiques, hein, de sport, des jeux, mais vous développez aussi des projets de plus long terme.
Voilà, on travaille autour du vivre ensemble, des projets, surtout avec les grands. On travaille sur un projet qui s'appelle la main d'or, qui regroupe cinq axes au niveau du fair play, du meilleur copain, du plus créatif. Donc on travaille avec eux autour de ça, pour qu'ils vivent bien ensemble, et puis qu'ils se respectent, et puis que la vie soit belle, et puis qu'ils soient acteurs de leur vie avec nous.
Et ça fait combien de temps que vous faites ça ?
Alors, là, ce poste-là, ça fait 4 ans et demi, mais autrement, moi, je travaille avec des enfants depuis passé 30 ans.
D'accord. Et pourquoi ? Oui. C'est venu comment, cette envie ?
Alors, j'ai commencé parce que mon père m'avait demandé de travailler l'été, à 17 ans. Il m'a dit à 17 ans, ce serait bien que tu bosses un peu pendant l'été.
Ouais.
Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'allie le travail et puis le plaisir.
Bah oui, c'est les vacances quand même.
Donc, j'ai commencé par faire de l'animation en colonie de vacances, avec des camps d'ados, des centres aérés. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai trouvé beaucoup de travail. Après, je me suis déplacé en Suisse. Et là aussi, j'ai trouvé du travail dans les garderies. Et puis voilà, j'ai fait une formation d'éducateur, après j'ai fait d'autres formations continues.
Et aujourd'hui, et vous êtes responsable d'un accueil parascolaire, donc à Corsier-sur-Veuvet. Donc il faut y aller pour visiter le musée de Chaplin, j'ai bien retenu. Merci beaucoup Sylvain Bezin. Voilà, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Il est 6h10. On monte dans un camion bien spécifique à présent dans les petits bateaux. Camille Cronier nous emmène voir sa destination.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, ça sent pas un peu mauvais par ici ?
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir où vont les déchets quand ils sont dans le camion poubelle. Merci, au revoir.
Ah, le mystérieux voyage du camion poubelle. Anna, je suis avec Sabine Barle, professeure d'urbanisme à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui a fait un livre aussi il y a quelques années sur l'invention des déchets en ville. Quelle est donc la destination finale de nos poubelles ?
Alors Anna, bien, il y a quelques années, c'était facile de répondre à cette question parce que il se passait pas grand-chose quand les déchets étaient mis dans le camion poubelle. Soit ils allaient en décharge, donc on allait les déposer sur un grand terrain et puis les empiler sur ce terrain, soit ils allaient dans des incinérateurs, c'est-à-dire qu'on les faisait brûler. Mais depuis une trentaine d'années, disons, on procède au tri. Tu as probablement vu que chez toi, il y a plusieurs poubelles. Et dans chacune de ces poubelles, on met des choses différentes. Et donc, ces différentes poubelles, elles vont avoir des destinations différentes. La poubelle qui contient, par exemple, les papiers, cartons, plastiques et même canettes des boissons, elles vont aller dans un centre de tri où on va séparer tout ça. Et puis, on va amener ce qu'on a séparé dans des usines, par exemple dans une usine pour faire le recyclage des plastiques. Et là, on va transformer les plastiques en petites billes de plastique qui vont être réutilisées pour fabriquer de nouveaux plastiques.
Dans le meilleur des cas, hein, c'est pas toujours le cas.
Oui, sachant qu'il y a beaucoup de plastiques qui ne sont pas recyclables, donc qui, eux, vont être écartés de cette destination. Et puis, pour les papiers cartons, on va faire de nouveaux papiers cartons. Et pour ce qui concerne tout ce qui vient des déchets alimentaires, on a deux possibilités. Soit on va les amener dans une espèce de gros réservoir fermé dans lequel on va produire un gaz qui s'appelle du méthane, qui peut être mis dans le réseau de gaz, que tu as peut-être chez toi, mais il n'y en a pas partout des réseaux de gaz, et qui sert au chauffage ou à l'eau chaude ou à faire cuire les aliments. Ou bien on va fabriquer du compost. Le compost, ça sert à amender et à fertiliser les terres agricoles. Et puis ce qui reste, ce qui n'est pas dans ces poubelles de tri, ce qu'on appelle parfois les ordures résiduelles comme reste, ça va aller donc soit en décharge, soit dans un incinérateur. Et dans cet incinérateur, ce que l'on va faire, c'est que l'on va produire de la chaleur ou de l'électricité, ou les deux. Et cette chaleur, elle va permettre notamment de produire du chauffage urbain et donc d'amener du chauffage dans les maisons. Et donc, c'est assez pratique.
Et tout cela, enfin, je le redis, mais dans le meilleur des cas quand même.
Je l'ai décrit en donnant l'impression que tout était recyclé de façon optimale, etc. La réalité est un petit peu différente parce que ces filières de recyclage ne sont souvent pas très rentable. Et donc, ça fait que ce recyclage n'est pas toujours fait de manière très précise. Il n'est pas fait de façon aussi importante dans toutes les villes. Il y a beaucoup de villes en Europe qui ne le pratiquent pas encore, même si la loi dit qu'il faut le faire. Donc, il vaudrait mieux arriver à produire moins de déchets, même s'il faudra les recycler après, ce serait la meilleure solution si on voulait s'en sortir.
Voilà, moins de déchets, des toutes mini-poubelles. Un beau défi tient à faire à la maison. Salut les matelots.
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Les petits bateaux, c'est aussi tous les soirs après le journal de 20h.
France Inter. Le 5-7.
La faute aux jeux vidéo, c'est tous les mardis avec Olivier Bénis. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathilde.
Cette semaine, on rend hommage à Akira Toriyama.
Avec Sandland, le dernier projet sur lequel a travaillé le créateur de Dragon Ball, décédé en mars dernier, l'adaptation en jeu vidéo d'un manga qu'il avait entamé en 2000 et qui nous plonge dans un monde désertique très Mad Maxien, où l'eau est devenue la plus précieuse des denrées.
Tout a commencé il y a environ 50 ans. Les activités insensées de l'homme ont causé une série de catastrophes naturelles. La majeure partie du monde s'est vue avalée par ce désert autrefois modeste. Quant aux quelques humains qui restèrent parmi les cendres, ils continuèrent leur guerre mesquine. Désormais, on appelle ce désert torride et désolé Sandland.
Un désert où cohabitent difficilement les humains et les démons, des créatures de l'ombre pas franchement effrayantes, dont le principal passe-temps consiste à jouer des tours aux derniers représentants de l'humanité et à leur piquer régulièrement une partie de leur eau pour survivre. Parmi eux, il y a Belzébub, fils de Lucifer et prince des démons, un être aussi puissant et respecté qu'il est petit et rose. La vie bien paisible de ce petit diable fan de jeux vidéo va changer le jour où il rencontre Rao, un shérif humain bourru, lancé dans une quête un peu folle.
J'aimerais demander votre aide pour chercher la source légendaire.
Une source légendaire ? Explique-toi.
J'ai des raisons de penser qu'elle existe quelque part, au beau milieu de ce désert. Mais le désert est dangereux et sauvage au sud d'ici. Je doute qu'un humain seul puisse le traverser. Voilà pourquoi je viens demander l'aide d'un puissant démon.
L'idée est tentante. Mais on peut déjà voler de l'eau quand on veut.
Accepte ceci en gage de bonne volonté. L'une des rares consoles de jeu à avoir survécu à ces temps chaotiques.
Trop bien ! Il y a plusieurs jeux aussi ! Attends un peu, je vais demander la permission à mon père.
Contre toute attente, Papa Lucifer accepte que son fiston parte en expédition, mais avec quelques conditions.
Aide-le ! Le plan de cet humain sera bénéfique pour nous aussi. Et il a l'air digne de confiance.
Oui, monsieur.
Cependant, après ton retour, tu n'auras le droit de jouer qu'une heure par jour à cette console de jeu. Et assure-toi de jouer dans une pièce bien éclairée et pas trop près de l'écran.
D'accord. Il a dit oui!
Accompagné de Sif, un vieux démon aussi sage que Pétochard, et de Han, une jeune prodige de la mécanique, Belzébub et Rao s'embarquent dans une aventure qui pourrait bien changer la face du monde désolé de Sandland.
Et ils embarquent avec eux le joueur.
Et oui, parce que Sandland est un jeu d'action-aventure en monde ouvert qui pioche des idées à droite et à gauche chez les autres références du genre, et en particulier dans la série de jeux Borderlands, à qui il emprunte l'esthétique mêlant 3D et textures crayonnées, comme dans une BD ou un manga, mais aussi pas mal d'éléments de gameplay. Le côté bac à sable, sans mauvais jeu de mots, les affrontements à répétition pour progresser et améliorer son personnage, l'utilisation de véhicules hétéroclites et même l'univers désertique post-apocalyptique. C'est globalement très plaisant mais pas très original. Heureusement, c'est largement compensé par l'ambiance et les personnages du jeu.
Et à ce niveau-là, pas de doute, c'est du Akira Toriyama tout craché.
Avec son inimitable coup de crayon faussement simpliste, sa capacité à transformer le conte en réflexion sur tout un tas de sujets, comme l'irresponsabilité globale de l'espèce humaine, on retrouve aussi son amour du burlesque. Dans Sandland, les méchants ont des coiffures improbables, se baladent en slip, et une fois vaincus, ils se jettent au sol de manière joyeusement ridicule. Il y a aussi cet incroyable talent de Toriyama pour créer des personnages immédiatement attachants, avec des dialogues délicieusement décalés. Impossible de ne pas craquer pour le petit Belzébub, persuadé d'être un terrifiant démon, mais incapable de tenir plus de 5 minutes sans rendre service au premier humain en détresse qui passe, bon, en râlant beaucoup hein, pour le principe. Les fans de Goku y trouveront un nouveau joyeux camarade de jeu, qui plaira sans doute aussi aux plus jeunes, avec sa faible difficulté. Sandland est particulièrement accueillant pour les joueurs débutants.
Et pour y jouer à ce Sandland, ça se passe sur PC, PlayStation et Xbox Series. Bonne journée, Olivier Bénis, dans un instant le journal.
France Inter, c'est aussi sur les assistants vocaux. Sur Alexa, dites « Alexa, lance France Inter ».
France Inter, le direct.
Pour écouter la radio en direct.
À la maison, en voiture, sur mobile, France Inter, à portée de voix.
Il est 5h58.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster. Votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
On garde le parapluie à proximité, Elodie Calac.
Encore perturbé et parfois orageux, de l'Occitanie vers le centre-Val de Loire, la Bourgogne et la frontière belge, on retrouve des pluies souvent faibles, plus marquées du Languedoc jusqu'aux Cévennes. Cet après-midi, encore quelques averses. Un axe pluvieux et parfois orageux du Languedoc et de la vallée du Rhône vers la Bourgogne puis la Champagne avec de la grêle possible. Quelques orages pourront remonter vers la frontière belge. À l'est, pas mal de nuages, mais du soleil sur l'Alsace. Cet après-midi, de la pluie sur les Alpes et ça tournera à l'orage sur le nord-est. De l'Aquitaine vers la Touraine et la Normandie, c'est agréable avec du soleil, mais une perturbation donne de bonnes pluies sur la Bretagne. montagne avec un vent de sud et des nuages jusqu'à la Vendée et au Cotentin. Les températures gagnent quelques degrés. Ce matin, il fait souvent 5 à 14 degrés. Cet après-midi, 13 degrés attendus à Brest, 19 à Cambrai, au Havre, à Paris ou à Châteauroux, 19 aussi à Lyon, Montauban et Marseille, 22 degrés à Dijon, Bordeaux et Nice et 26 à Strasbourg.
Dans 20 minutes, l'invité du 5-7, Pierre Larouturou, député européen Nouvelle Donne, un parti de gauche, il se représente avec l'envie de rendre l'Europe plus sociale et plus engagée pour l'environnement. Dans le grand angle, des cobayes qui restent alités pendant 2 mois et qui pédalent dans une centrifugeuse pour faire avancer la recherche.